travers les lectures qui nous sont données par la liturgie, eh bien nous avons une réflexion sur ce qu'est un appel. Et j'allais dire, c'est à travers l'appel que la Vierge Marie a reçu et qu'elle a ensuite transmis cet appel à sa cousine Élisabeth, nous avons l'archétype de tout appel. Premièrement, tout appel vient de Dieu, ce n'est pas le fruit de notre imagination, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on invente, c'est le Seigneur qui est à l'initiative. Mais tout appel requiert, pour pouvoir être entendu, d'habiter sa maison intérieure. Et vous avez vous-même vu le parallèle entre la manière dont le récit rapporte la visitation et la manière dont l'Écriture rappelle l'Annonciation. Dans l'Annonciation, c'est l'ange qui entre dans la maison de Marie. Dans la Visitation, c'est Marie qui entre dans la maison d'Élisabeth. Et au-delà du fait de passer le pas matériel d'une maison et le seuil d'une maison, c'est aussi au plan spirituel qu'il faut comprendre les choses. Marie habitait chez elle, Élisabeth était chez elle. Elle était chez elle spirituellement, intérieurement, connectée à elle-même. Elle était dans son cœur profond et du coup elle a entendu l'appel. Mais cet appel qui a été donné à Marie, il n'a pas une fin en lui-même. Aucun appel que Dieu donne n'est pour la personne uniquement pour son épanouissement personnel. Cet appel, il est en vue d'être communiqué. Et donc avec cette forme d'appel, on a aussi la forme de toute évangélisation, de toute la mission de l'Église. Ce que nous recevons du Seigneur, c'est en vue de le donner à d'autres. Et on le voit avec le récit de la visitation, c'est d'abord cet empressement. Marie qui, voilà, elle a reçu quelque chose de Dieu, elle a reçu un signe dans le récit de l'Annonciation, le signe que sa cousine, sa vieille cousine était enceinte. Et voilà, elle se met en route avec empressement et elle va à travers la région montagneuse, etc. Quelque part, elle rentre aussi dans une logique de don d'elle-même. Elle a reçu un don et elle se donne elle-même. Et ce don qu'elle reçoit, c'est pour réveiller dans le cœur de sa cousine Élisabeth la présence de Dieu. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Et ce verbe tressaillir, c'est le même verbe que dans la Bible on utilise quand on parle de David qui danse devant l'arche. C'est ce même verbe. De même que comme l'enfant a dansé d'une certaine manière devant Marie, cette arche, la nouvelle arche, c'est un des noms qui est donné à la Vierge Marie, de même aussi David, dans les temps anciens, avait dansé devant l'arche. Elle, la présence de Dieu, le fait d'être en présence de Dieu, réveille en nous, dans l'autre la présence de Dieu. Et c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas tant vouloir convaincre à toute force ou endoctriner ou augmenter le nombre de statistiques de catholiques. L'évangélisation, c'est réveiller dans l'autre la présence de Dieu, lui faire prendre conscience qu'il porte en lui-même plus grand que lui-même. Et Élisabeth, si déjà évidemment elle avait vu dans cette maternité un don de Dieu, elle qui était la stérile, elle qui était la honte, en ce temps-là on voyait bien comment c'était lié les deux choses, eh bien elle a reçu cet appel comme une grâce. Et c'est la première béatitude de l'Évangile, bienheureuse celle qui a cru. Parce que lorsqu'on est dans cette dimension d'intériorité, de découvrir la présence de Dieu, eh bien on renvoie aussi à l'autre une bénédiction, une béatitude. On est comme dans une respiration, dans un don mutuel. Bienheureuse celle qui a cru dans la présence de Dieu et dans sa parole. Alors pour nous, dans cette veille de Noël, je trouve que c'est un bon cheminement spirituel qui nous a indiqué, alors que évidemment beaucoup s'activent, et c'est légitime, pour préparer la fête, pour accueillir de la famille, pour entamer un voyage, etc. Bon, pour préparer les cadeaux, c'est très bien. comme il est important que nous puissions prendre d'ici demain soir ou d'ici mardi 25, ben voilà, un temps d'intériorité, un temps où notre vie contemplative va être au cœur, un temps comme se sortir de ce tumulte qui nous emmène loin du Seigneur. Il y a beaucoup de forces centrifuges autour de la fête de Noël. Et c'est dommage parce que c'est une fête qui est intérieure. L'ange entra, Marie entra. C'est une fête qui demande d'être habitée intérieurement, d'être comme reprendre contact ou affermir cette présence de Dieu reçue au baptême. Alors oui, le Seigneur nous demande, contre toute attente, contre l'esprit du monde, hein, qui voilà, vit dans une grande agitation, et en particulier dans notre pays, ben, voilà, nous demande de nous recueillir. Nous demande de, à nouveau d'être en sa présence. Nous demande de faire silence. Nous demande d'être des âmes de prière, parce que Marie est une âme de prière, Élisabeth est une âme de prière. Et c'est dans le silence et la prière que l'on peut vivre de façon tellement puissante la nouvelle de la naissance du Sauveur. Et de fait, vous regardez, quand, dans les textes qui vous seront donnés pour la liturgie de Noël, eh bien, on voit que c'est un mystère de silence et c'est un mystère de prière. Marie n'est pas accueillie à l'hôtellerie, comme vous le savez, elle va, voilà, dans une crèche, elle est loin des autres, dans une certaine solitude, dans un certain silence, et c'est simplement Dieu lui-même qui rompt ce silence avec les anges, avec ses manifestations auprès des bergers. Mais le moment même de l'accouchement, le moment même de la nativité, c'est un mystère contemplatif. C'est un mystère qui nous emmène au plus profond du cœur de Dieu et du cœur de l'homme. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous donne cette grâce, parce que c'est vraiment une grâce, que nous puissions, d'ici demain ou après-demain, vraiment prendre un temps seul avec le Seigneur, de cœur à cœur avec lui, un temps d'action de grâce, de louange. Tu es béni entre toutes les femmes, parce que quand on est en présence de Dieu, comme Élisabeth est en présence de Dieu dans le sein de Marie, eh bien quand on est en présence de Dieu, on se décentre de soi-même. Et quelle est l'expression de ce décentrement, si ce n'est la louange et l'action de grâce? C'est le père Daniel Ange, charismatique s'il en est, qui, avec des expressions toujours fleuries, parlait de cette rencontre d'Élisabeth et de Marie comme le premier voyage missionnaire de Jésus. Jésus présent en Marie réveille dans le cœur de sa cousine eh bien, l'action de grâce et la louange. Puissions-nous aussi en faire autant. Puissions-nous, non pas par nos forces, mais par notre vie intérieure, puissions-nous justement, par le contact avec l'autre, par la douceur de notre comportement, de nos paroles, puissions-nous réveiller dans le cœur de l'autre cette attente et lui dire combien c'est le Seigneur qui aussi l'attend à l'intérieur même de ce mystère de la nativité. Alors on va demander ça les uns pour les autres, on va demander ça comme grâce durant cette Eucharistie, pour que nous puissions être prêts, nous puissions vivre avec profondeur, avec une vraie vie de foi, hein, cette nativité, vous le savez, chaque fois qu'on célèbre des grandes fêtes, des grands mystères de notre foi, c'est pas simplement célébrer quelque chose qui, dans les temps anciens, est arrivé. Non, c'est pas comme quand on célèbre le 14 juillet. Non, c'est quand on célèbre les mystères de notre foi, eh bien ces mystères-là sont présents à nouveau devant nous. Ils sont à nouveau là. Les grâces de Noël est présente. La grâce de Noël est présente à chaque nativité que l'on célèbre. Alors demandons des grâces aussi. Demandons des grâces pour nous-mêmes. Demandons des grâces pour nos familles. Parce qu'on voit bien que nos familles aussi ont besoin de grâce, de réconciliation. Et de ce point de vue-là, Noël n'est pas forcément une fête facile en famille, parce qu'il y a tout qui se rassemble, quoi, tout qui prend une dimension beaucoup plus forte à travers cette fête. Mais demandons en particulier cette grâce d'une vie contemplative, d'une vie de cœur à cœur avec Dieu, à l'exemple de la Vierge Marie.